Et Chauveau-Ouest en s'en allant vers O'Shannon, dans le coin de la base militaire, c'est au rouge aussi. Puis petit ralentissement Laurentienne-Sud vers rue de la Faune.
Commandant Legault s'en va en guerre contre les centrales syndicales. On veut rendre une partie des cotisations syndicales facultatives. Et pas besoin de vous dire que les centrales syndicales sont en beau fusil et promettent une guerre sans merci. Effectivement, c'est assez prévisible. Il y a eu énormément de représentants syndicaux qui sont sortis dans les médias dans les dernières heures parce qu'eux sont contre ça. On a le plaisir d'en recevoir un ce matin. Son nom, c'est Éric Gingras. Il est président de la centrale des syndicats du Québec. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, M. Gingras.
Le plaisir est pour moi. Bonjour à vous.
Est-ce que la CSQ s'en va directement en guerre contre le gouvernement du Québec, contre justement cette décision-là de rendre une partie des cotisations syndicales facultatives? Parce qu'on va se le dire, c'est une affaire de gros sous pour vous.
Oui. Ben, écoutez, premièrement, là, est-ce qu'on s'en va en guerre? Là? Moi, ces termes-là, quand on me les amène, c'est vrai en négociation, quand on était dans le secteur public. Bon, écoutez, est-ce qu'on est mécontent? Bien sûr, puis il y a des raisons pour ça. Puis là, vous donnez l'exemple, justement. Bon, c'est des gros sous, mais à la base, au-delà du montant d'argent, question de principe, parce que ce qui est vraiment regardé derrière ça, puis on a entendu le ministre du Travail en parler, on a vu le document qui a fuité, c'est que là, on essaye de dire, ben, il y a une partie des cotisations que c'est normal parce qu'on défend des choses normales pour une organisation syndicale. C'est ce que dit le gouvernement.
Oui.
Puis d'un autre côté, il y en aurait qui sont facultatives. Et là, la question, c'est, OK, c'est quoi ça? Parce que là, moi, le gouvernement qui veut être juge et parti en disant qu'est-ce qui est correct qu'on dépense puis qu'est-ce qui ne l'est pas, moi, pour ça, j'ai des assemblées, j'ai des instances qui me disent ce sur quoi on doit faire nos représentations. Prenez l'exemple de la CSQ, là. Nous, là, c'est prévu comme ça dans nos orientations qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit. C'est les membres qui nous ont dit ça de faire de politique partisane.
À ce moment-là, ça vous toucherait pas, ça, M. Gingras?
Ben, ouais, mais c'est ça le problème. C'est que là, quand on regarde dans le fameux document qui a fuité, là, c'est que là, ils élargissent. Par exemple, en disant, ben, contester des lois en cours,
ouais.
Parce qu'ils donnent toujours l'exemple d'une autre organisation qui le fait pour le projet de loi 21.
On parle de la FAE, oui.
Ben, exactement. Ils disent ça, tu n'aurais pas le droit. Mais moi, la question, c'est, écoutez, là, nous, on le fait, par exemple, la loi sur l'équité salariale, il y avait eu des changements. On s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Nous, à la CSQ, on présente plus de 80% de femmes, beaucoup dans le secteur public. L'équité salariale, ça les touche. Puis il y avait des éléments où on disait, non, ça, là, ça va à l'encontre de la loi. On s'est rendu en Cour suprême, on a gagné. Alors, ça, ce que ça veut dire, que comme c'est pas dans une convention collective, j'aurais pas le droit de faire ça. Quand les membres me donnent une orientation, je le répète, 80% de femmes, où on dit, il faut parler, défendre, faire des représentations contre la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas en relation de travail. Mais écoutez, là, moi, j'ai des membres qui vivent ça au quotidien. Fait qu'il faut être capable de les aider. Puis quand on se retourne au ministre, on dit, il faut que la loi implique un encadrement contre les violences conjugales. Est-ce que je me sens légitimé de faire ça? Oui. Parce qu'en instance, j'ai eu des décisions. Alors, c'est tout ce bout-là. C'est comme si on remettait en question le travail puis la démocratie syndicale. Et là, c'est là que ça vient nous chercher. Au-delà des chiffres. Au-delà du montant d'argent, parce que là, depuis 24-48 heures, on parle beaucoup des sous, là. Mais moi, c'est une question, c'est les principes que je viens de donner.
C'est parce que c'est entre 1 000 et 1 200 là, pour certains syndiqués qu'on envoie aux centrales syndicales. Les centrales syndicales sont extrêmement puissantes. Puis en 1946, quand le juge Wren avait décidé de faire cette formule Wren-là, qui faisait en sorte qu'un employé, à un moment donné, même s'il était syndiqué puis il voulait se désaffilier, bien, il y avait des cotes à donner. On était loin de se douter qu'un jour, il y avait des centrales syndicales qui se mêleraient à des élections municipales, provinciales, fédéral. On était loin de se douter que les centrales syndicales se mêleraient d'environnement, de mouvements sociaux, de la laïcité de l'État. Mais il semble qu'en bout de ligne, M. Gingras, puis je suis pas mal certain qu'il y a des affaires là-dedans avec lesquelles vous êtes d'accord, là. Il y a certains syndicats qui vont dans des endroits où, techniquement, c'est pas de leur affaire. Et s'ils avaient à consulter leurs syndiqués, bien, la plupart des syndiqués, en majorité, diraient « Non, ça, c'est pas, ça touche pas notre travail, ça. Faites autre chose. » Pourquoi se mêler des élections? Ça n'a juste pas de sens, là.
Mais il y a deux éléments. Premièrement, vous parlez de la formule Rand. Écoutez, la formule Rand, là, il y a quand même quelque chose de très intéressant encore en 2020.
Ben, à cette époque, en 1940, là, je peux vous dire que quand les centrales syndicales sont arrivées, moi, je jugeais ça pertinent. Là. Quand on lit un peu l'histoire, là, je sais que vous en doutez pas, mais j'étais pas là en 1940. Mais quand on regarde l'histoire, c'était très pertinent, les centrales syndicales, parce qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient extrêmement fort, qui étaient très peu rémunérés, puis ça prenait des conditions de travail qui avaient du sens. 2020, 2020, 2025, 2026, on n'est plus ce qu'on vivait en 1940-1950.
Ah ben, tantôt, vous avez dit que je serais peut-être d'accord sur certains points, pas celui-là.
Ah ben.
Vous comprendrez bien. Vous ne serez pas surpris. Mais je vais revenir sur l'autre élément aussi. Mais écoutez, là, moi, quand je porte la parole là, des profs, du personnel de soutien, des professionnels dans nos milieux où il y a de la pénurie, où pendant les négociations du secteur public, il fallait absolument donner un coup de barre, puis c'est vrai dans nos collègues du collégial, puis c'est vrai avec nos collègues en santé, je me sens aucunement mal en 2025 de faire ces revendications-là, parce que ça prend un contre-pouvoir au gouvernement, puis il y en a, nous en sommes un, mais il y en a d'autres aussi dans le secteur privé, il y en a d'autres aussi dans des lobbies, il y en a d'autres aussi dans les organisations patronales. Alors, ce bout-là, est-ce que c'est encore nécessaire, les grandes centrales, les grandes organisations? C'est certain, je vais vous dire oui, mais en même temps, je pense que les explications sont claires pour le démontrer. Maintenant, pour ce qui est ce sur quoi on intervient, il y a quand même des orientations décidées de façon démocratique dans nos instances, puis c'est là-dessus on nous dit, ouais, mais il y a du monde qui ne seront pas d'accord. Puis là, après ça, est-ce qu'on peut faire preuve de plus de transparence? Je vais vous donner un exemple. Dans le projet de loi 101, là, il y a un élément sur les finances des syndicats. On s'est présenté en commission parlementaire, puis on a dit qu'on était d'accord que ça prenait une finance. Alors, une transparence dans les finances. Alors, d'un côté, on peut toujours faire mieux. Est-ce qu'on peut travailler mieux pour avoir plus de monde qui participe? La réponse, c'est oui. Mais ça, on peut s'asseoir, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, même dans un projet de loi. C'est ça, le dialogue social au Québec. Puis, M. Boulay, le gouvernement le fait dans les dernières années, dans les 6 dernières années. Là, écoutez, pas difficile de voir que ça, c'est un aspect d'avantage électoraliste. Mais il y a quand même des décisions qui sont prises. Quand on parle d'environnement, vous l'avez nommé, quand on parle d'enjeux sociaux, pourquoi par hasard, quand on parle de laïcité, première question, notamment des ministères de l'Éducation, des différents ministères, c'est est-ce que les centrales sont d'accord avec ça? Donc, ils veulent notre opinion, mais il ne faudrait pas la donner.
Je pense pas que ce soit la demande de vos membres de vous prononcer là-dessus. Vos membres, ce qu'ils veulent, c'est avoir de meilleures conditions de travail. Ils veulent que l'employeur abuse pas trop. Ils veulent avoir de bons salaires. Ils veulent pas vous voir à la télé. Ils veulent pas vous voir à la radio essayer de vous débattre pour parler de laïcité, de mouvements sociaux, d'élections, d'environnement. T'sais, ils payent assez cher, ils veulent que leurs représentants soient directement dans les entreprises à négocier avec les patrons plutôt que dans les médias à se défendre pour des trucs qui ne vous touchent pas hein, dans votre job, là, concrètement. Là.
Ben, c'est là-dessus que là, je suis malheureusement encore en désaccord avec vous pour deux raisons. Écoutez,
avez-vous l'impression que vos syndiqués sont en désaccord avec moi en majorité?
Je pense que oui, mais il faut bien expliquer. Là, vous me parlez de laïcité. Vous me parlez de laïcité.
Ouais.
Écoutez, là, quand le Québec a décidé, au tournant des années 90, de se doter de commissions scolaires laïques, on a fait partie du travail parce que nos membres nous disaient on est tannés d'enseigner la religion dans nos écoles. On y a fait partie de ça, là. Quand on a dû aller, même au gouvernement fédéral, rappelez-vous, le gouvernement du Parti québécois a dû, là, au niveau de la Constitution, parce qu'on était... On avait des commissions scolaires confessionnelles. Il a fallu, à ce moment-là, on en a fait partie de ça. Alors, vous voyez, il y a peut-être des moments où peut-être c'est vrai que certains vont aller trop loin. Mais ma question, je vous le répète, quand est-ce, puis qui?
Nous, j'ai un exemple pour vous. J'ai un exemple pour vous, M. Gingras. Le voyage à Dubaï de Magali Picard à la FTQ pour aller sauver l'environnement avec 3 personnes qui font partie également de la FTQ. Ça, est-ce que c'est des dépenses inadmissibles pour un syndicat?
Bien ça, vous comprendrez que je vais laisser Mme Picard et la FTQ répondre à cette question-là.
Ouais.
Pour notre organisation,
vous le feriez-vous?
Ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choses qui sont basées sur des orientations, sur des décisions de mes instances avec mes syndicats locaux qui vont chercher les orientations auprès des membres. Puis maintenant, est-ce que j'en ai qui vont être en désaccord? Bien sûr, c'est une démocratie. Mm-hmm. Moi, là, je représente plus de 200 000 membres au Québec. Si j'en ai 70 % qui sont d'accord, là, ben j'en ai quand même 60 000 qui vont peut-être prendre la...
Ouais, vous allez quand même prendre la majorité, je comprends.
D'accord. Ben, alors, pour cette raison-là, moi, je vous dis, là, moi, quand je suis en instance, je vais chercher mes orientations, on le fait en congrès, on va chercher des orientations qui touchent les membres, puis ça, c'est important pour nous, puis c'est ça qu'ils nous demandent de faire, mais des fois, ça veut dire de s'impliquer dans les aspects sociaux, économiques. Écoutez, moi, là, personnel de l'éducation, notamment, très important chez nous, quand le budget de la province sort, là, c'est sûr que je le regarde, puis c'est sûr que je commente. Puis oui, vous allez m'entendre puis me voir à TV.
J'ai deux autres...
Moi, je suis content parce que vous êtes excellent en communication puis vous défendez vos points, M. Gingras. J'ai une question d'un auditeur, M. Gingras, puis je vais vous la poser. Est-ce qu'on pourrait pas amener aujourd'hui, en 2025-2026, une syndicalisation volontaire? C'est-à-dire que pour les gens qui veulent être syndiqués, ils peuvent payer des cotisations, puis pour les autres, ben tout simplement, ils vont demeurer employés puis ils vont négocier eux-mêmes avec le patron.
Donc, si je comprends bien, dans la dernière négociation du secteur public, j'ai eu des syndiqués qui auraient eu des conditions de travail, puis après ça, les autres les auraient pas eu ou en auraient eu d'autres, puis ceux qui auraient bien fait en auraient eu plus, d'autres... Alors, vous comprenez le principe. C'est ça que le juge Rand est allé dire en 1977 au Québec. On parle toujours de 1946, mais au Québec, ça s'est appliqué en 77, donc un petit peu plus contemporain. C'est pour cette raison-là. Ça vient aussi avec l'obligation de représentation du syndicat envers les syndiqués, c'est-à-dire que moi, même si je l'aime pas, le syndiqué en question qui a besoin de se faire représenter, j'ai l'obligation de le représenter. C'est un peu, si on veut, le juge a basé sa décision un peu comme le reste du droit, c'est-à-dire tout le monde a le droit à une défense pleine et entière. C'est ce qui a obligé les organisations syndicales à faire.
Mais il était loin de se douter que vous puissiez faire tomber un gouvernement avec vos membres, là.
Ça, j'ai jamais réussi à faire ça.
Ouais, mais quand les syndicats décident de se mettre à dos ou le gouvernement décide de se mettre à dos les syndicats, je pense que ça paraît beaucoup dans les sondages, M. Gingras. Là. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie causes, non plus. Là.
Ben, quand il y a des causes qu'on défend, tu sais, puis on ne se le cachera pas, là, une des raisons pourquoi le gouvernement attaque les syndicats comme ça, c'est en grande partie de la négociation du secteur public. Le gouvernement avait une idée, il voulait négocier à rabais avec les femmes, notamment, parce que c'est plus de 80% dans le secteur public. Et finalement, les syndicats sont tenus debout. La population a appuyé les syndicats. Il n'a pas aimé ça. Et là, maintenant, il dit, ben plus jamais. Puis moi, ben je vais les faire payer un peu. C'est ça qui est arrivé. Alors, ça, est-ce qu'effectivement, on a été en opposition au gouvernement? Oui. Est-ce qu'on a été en opposition aux partis politiques de la CAQ? Bien sûr que non. Notre travail, c'est un travail de contre-pouvoir. Puis savez-vous quoi? Présentement, on est en train de se plaindre qu'aux États-Unis, les contre-pouvoirs disparaissent. C'est pas ça qu'on veut au Québec. Puis il n'y a pas juste les syndicats, là. Il y en a d'autres. Puis si vous promenez à l'Assemblée nationale, là, des lobbies de contre-pouvoirs, des grosses compagnies multinationales et autres, il y en a aussi.
N'empêche que vous devez être en tabarouette après la FAE, M. Gingras. Grève des enseignants alors que vous aviez pris une décision contraire. On va à la Cour suprême pour contester la loi sur la laïcité. Moi, pour moi, là, contester la loi sur la laïcité en Cour suprême de la FAE, c'est ce qui vous apporte les problématiques avec le gouvernement à l'heure actuelle. Êtes-vous d'accord?
Ben, si c'est réellement le cas pour le gouvernement, ben, qui parle avec la FAE et qui nous trouve, puis ultimement qui s'assoit avec nous aussi, où est-ce qu'on peut s'assurer de prendre les meilleures décisions? Parce que ce qui remet en question, puis c'est ce qu'on a entendu beaucoup de gouvernements faire, c'est cette prise de décision-là qui dit, ben, les membres, c'est pas ça qu'ils veulent. Moi, je le sais pas. Je suis pas dans cette organisation. Moi,
ouais, clairement que je pense pas que les enseignants veulent dépenser leur argent pour aller contester à la Cour suprême la loi sur la laïcité. Là. Il y en a 25 dans les FAE là, qui sont contre. Là.
Ben alors, moi, je vous le dis, si on me demande de m'asseoir avec le gouvernement pour dire qu'est-ce que les syndicats peuvent faire pour s'assurer de prendre des décisions les plus démocratiques possibles puis trouver quels sont les mécanismes, je vais le faire n'importe quand parce que c'est ce qu'on veut. Moi, chez nous, là, ce que je souhaite le plus, c'est qu'on fait une consultation, et ça arrive très souvent, on est présentement en consultation sur des grands enjeux en éducation pour se doter là de vraiment des éléments d'orientation sur l'éducation de la petite enfance en enseignement supérieur, puis on va consulter directement les membres, puis on veut qu'il y en ait le plus possible. Alors, l'enjeu pour moi, présentement, c'est un enjeu du gouvernement de se trouver une tête de turc, ça c'est les syndicats, c'est facile. Mais l'affaire, c'est que les syndicats, c'est facile à toucher, c'est facile à casser du sucre. Mais en même temps, là, les syndicats, ben c'est la prof que vous allez croiser ce matin, c'est la collègue éducatrice, c'est la collègue psychologue, c'est la collègue infirmière, c'est eux qui sont syndiqués. Moi, je fais juste porter leur parole. Puis le but, c'est de permettre de faire avancer. Puis une centrale syndicale, c'est pas juste une question des cotisations et encore moins des salaires, mais c'est aussi de s'assurer que tout le Québec est gagnant avec de meilleurs services publics, dans mon cas. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire les choses encore mieux? La réponse, c'est oui, mais ça se fait pas à coup de projet de loi comme on est en train de faire là, à des fins électoralistes, parce que là, on va se le dire. Là. À un an des élections, les sujets que le gouvernement a choisis, là, C'est juste pour monter dans les sondages.
Ça, on s'entend très bien là-dessus, M. Gingras.
Au moins, ça fait ça. Au moins là-dessus.
Je peux vous dire que dans les prochaines semaines, vous allez justifier le salaire que vous commandez à la Centrale des syndicats du Québec parce que vous allez avoir énormément de travail pour vos membres. Le gouvernement Legault qui s'apprête à ouvrir tout un débat, rendre une partie des cotisations syndicales facultatives et les centrales syndicales promettent une guerre. Donc, mon conseil, M. Gingras, un petit jogging chaque matin, manger santé, un peu plus de protéines, un peu plus de gym, puis d'après moi, vous allez passer au travers.
J'en prends note. Merci beaucoup.
Salut.
Bye-bye. Éric Gingras, qui est président de la centrale des syndicats du Québec, réagissait justement à cette guerre ouverte que Legault est en train de lancer avec les centrales syndicales. Bon bonhomme, ce monsieur-là.
Très bon bonhomme.
Communication, puis c'est le fun de jaser avec du monde.
J'adore jaser avec lui. J'aime débattre avec lui parce qu'il a ses opinions, il les exprime bien. On a les nôtres, on les exprime bien. Il ne dira jamais... Mais la CSQ a bien travaillé dans les négociations avec le gouvernement. Ils n'ont pas fait de bruit dans les médias, contrairement à la FAE et la FTQ. Ils se sont assis avec le gouvernement. Ils n'ont pas déclenché de grève. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour mener à terme la négociation. C'est clair que lui est en tabarouette après Dubaï, la FTQ est en tabarouette après la FA. Il ne dira jamais publiquement, mais c'est sûr que ça brasse à l'interne.
7h54, c'est 15 degrés sur Québec.
À la circulation 73 Nord, hauteur la rivière Chaudière, avant le pont Pierre-Laporte, la voie de droite qui est partiellement entravée par une panne, fait que c'était déjà un peu compliqué dans le secteur des ponts. Ça n'aidera pas. La bonne nouvelle, c'est que le remorquage est déjà en cours. Capitale-Ouest, quelques difficultés entre Beau-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa-Sud, bien jamé vers le boulevard Lebourgneuf. À part ça, l'heure de pointe semble s'estomper tranquillement.
Gros bulletin de nouvelles avec Max au retour de la pause. Je sais qu'à cette heure-là, il y en a qui s'apprêtent à rentrer au bureau. C'est assez facile. Application Boulevard à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, dans votre téléphone intelligent. Les podcasts sont là, les entrevues sont là. En fait, tout est là. On a aussi la web radio au boulot pour vous autres. Et si vous avez Google Home ou Alexa, c'est le futur, comme dirait Stephen Croateau. Eh bien, dites BLVD 101.
Marceau le matin. Marceau.